Et bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait ?» avec toujours le beau Lucas à la technique. Et aujourd'hui, deux invités, dont un particulièrement, Philippe Ploquin. Bonjour, bonjour Philippe, comment bonjour. Vas-tu bien? Ça va bien?
Ça va très très bien.
Voilà, ça allait bien et arrive Régis Najac.
Bonjour.
Comment vas-tu bien?
Eh bien, ça va, moi ça va pas fort, tu sais, à mon âge maintenant.
Oui, je sais bien. Enfin, ça va aller bien après les émissions de Philippe.
Mais exactement.
Alors Philippe, tu étais déjà venu pour nous présenter des gros bouquins et là tu en présentes deux d'un coup, qui s'appellent donc toujours dans la série Gourmandise, Escapade et découverte de la terre à la table, et c'est les numéros 3 et 4.
Alors en réalité c'est le numéro d'été et d'automne que je suis venu te remettre aujourd'hui, puisque notre magazine Gourmandise est calé sur les saisons.
D'accord.
Pourquoi les saisons? Tout simplement parce que nous voulons respecter les produits de saison. Comme je le dis souvent, moi je ne mange pas de fraises au mois de décembre, je mange les fraises au printemps.
Oui,
quand
mais
ça sort chez nous.
La femme enceinte qui a des envies de fraises au mois de juillet, comment faire?
Oh, ben ça, elle se débrouille, ça ne me regarde pas. Mais j'ai pas de femme enceinte dans la maison en ce moment. Non, mais c'est vraiment Mais c'est vraiment le respect des saisons. Moi, je suis très, très attaché. Enfin, moi, avec mon associé, François Spurriot, nous sommes très, très attachés, justement, au respect des saisons. Je voudrais qu'on continue à respecter profondément le travail de tous ces magnifiques agriculteurs et producteurs que l'on a en France. Et c'est leur faire affront que de ramener des fraises qui arrivent du bout du monde. Donc on imagine la taxe carbone que ça représente pour ramener des fraises, qui bien souvent n'ont ni goût et pas un très bel aspect, alors qu'on a des producteurs extraordinaires dans notre pays. Et en hiver, on peut manger plein d'autres choses, surtout en France. Donc l'idée, ça a été ça. On avait d'abord créé un magazine sur Internet, qui s'appelle Escapade et découverte. Aujourd'hui, on a plus de 180 000 lecteurs sur Escapade et découverte. Et les gens nous demandaient un produit papier, donc on a décidé de créer le magazine Gourmandise, donc un trimestriel. Comme tu as pu le constater, on a voulu faire un produit de très belle facture en papier glacé. Idem pour ce produit, il est intégralement fabriqué en France, j'y tiens, y compris le papier. Le papier est fabriqué à Lannemezan, certes, mais le reste, il est imprimé à Bruguière, à côté de Toulouse.
D'accord. Et tu en profites en même temps dans cette émission donc pour parler, c'est pour ça que Régis est là aussi, pour le 5e salon de la coutellerie des Lames à Najac. Alors ça concerne bien sûr Régis qui, lui, fabrique des couteaux et qui c'est toi aussi qui t'occupe du festival. Mais
c'est moi qui l'ai créé il y a 5 ans et en fait c'est ce qui a entraîné le fait qu'on se rencontre avec Philippe Ploquin, si je me rappelle bien.
Oui, exact.
Et tout ça, ça a enchaîné tout un tas d'événements vachement sympas.
Oui.
Parce qu'on a rencontré des gens, et puis par les uns on a rencontré d'autres et c'est vraiment chouette.
Et notamment des Japonais. Et toi, tu dans le livre, tu parles.
Enfin, je parle de japonais. Dans chaque numéro de Gourmandise, on a une rubrique sur la cuisine du monde.
Ouais.
Et dans le numéro d'automne, nous avons consacré la cuisine du monde à la cuisine du Japon. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré il y a un an au Lames à Najac un forgeron coutelier à Véronais, qui n'est pas loin d'ici, qui s'appelle Yannick Puig, et qui ne fabrique majoritairement que des couteaux de cuisine japonais. Mais quand je dis qu'il fabrique, c'est-à-dire qu'il part d'une trousse, la trousse c'est un assemblage d'acier dur et d'acier tendre qu'il forge au marteau pilon et il fait des couteaux de cuisine qui sont absolument remarquables. Et d'ailleurs Michel, je t'ai amené aujourd'hui, ça s'appelle un santoku, cette forme de couteau, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, vous avez pratiquement autant de couteaux qu'il y a d'actions dans une cuisine. Vous avez le couteau pour le poisson, le couteau pour le poulet, le couteau pour désosser, le couteau pour le thon. Il faut savoir que le couteau pour le thon, les couteaux pour le thon, ça s'appelle des maguro. Vous avez certains couteaux dont les lames atteignent jusqu'à 1,50 m de long pour découper les thons, pour suivre l'arête centrale du thon. Donc je trouve ça remarquable et c'est l'intérêt pour moi des Lames à Najac, c'est que chaque année on a la chance de que Régis Najac fasse venir sur son salon des gens un peu étonnants. Je crois que cette année il a fait venir un coutelier qui fabrique que des couteaux en silex.
Oui, c'est un... Il s'appelle Lansart. C'est, je pense que c'est même le seul en France à faire ça. En fait, il fait de l'archéologie expérimentale. Philippe explique très bien l'histoire. Peut-être que tu trouveras quelqu'un pour couper quelque chose en cuisine avec ça. Ça peut être rigolo. Le roc, mais ça se fera. Et donc, il fait de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'il fait des couteaux et des lames en silex exactement comme à l'époque. C'est-à-dire avec des cailloux. Il travaille avec des cailloux, avec des morceaux de bois de renne, avec des, c'est vraiment, vraiment superbe.
Il veut faire des démonstrations, là?
Et je pense que oui. Enfin, je l'espère.
Oh, certainement, parce qu'en général, ces couteliers, si on les prend dans leur globalité, ils ont envie de montrer leur savoir-faire. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans les lames à Najac, et j'avais notamment trouvé remarquable hier, l'année dernière, un forgeron, je ne sais pas s'il sera là cette année, qui forgeait à l'ancienne avec une forge, avec les soufflets à main, enfin c'était ouais. Extraordinaire. J'avais aussi beaucoup apprécié ce forgeron qui fabriquait des épées.
Oui.
Et vraiment, mais alors vraiment des épées comme on peut les utiliser, comme on pourrait les utiliser aujourd'hui, avec une souplesse de lame, des techniques absolument extraordinaires. C'est ça qui est vraiment plaisant au lame à Najac, c'est de rencontrer des. Je pense que le mot n'est pas trop fort des couteliers vraiment exceptionnels.
Allez, on va faire une première respiration musicale. Alors c'est pas le morceau qu'on va écouter, c'est pas un hasard. C'est Fernandel dans La Bouillabaisse. Donc, c'est un rapport avec la cuisine, bien sûr. On écoute tout de suite.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson passe et ricane, y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles. 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile et safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse. Raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite, Marie-Louise ou bien Susan. Ensemble on remue la marmite, en se bécotant tout le long. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis sans cesse. Raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Susan le fit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Oh, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Oh, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire et on fait des prouesses, quand on revient, il n'y a plus de bouillon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Si la bouillabaisse n'est pas bonne, c'est pas que Marius soit pas fort. Croyez-moi, c'est la faute à personne. C'est la faute à ce coquin de sort. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon.
Est-ce que tu as déjà fait des articles sur la bouillabaisse?
Non, 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 mais on a en projet d'aller faire une série de reportages à Marseille.
Ouais, c'est super.
Notamment rencontrer Colline Foulquier, qui a été une des finalistes de Top Chef 2016, que nous avons rencontré cette année à Lot of Saveur. Et c'est une fille qui a une façon de travailler les produits de la mer que je trouve très intéressant, donc ça fait partie des reportages à venir.
On doit venir faire un reportage chez toi pendant que tu cuisines, hein, avec ce beaucoup tout.
Ben écoute, ça va être bientôt la saison, parce que la dernière fois, je t'avais parlé d'un de mes plats préférés, si on ne devait me servir qu'un plat, en me disant, voilà, donc, tu n'as droit qu'à un plat. Pour moi, c'est celui que je préfère et que je fais tous les hivers, ce sont les œufs brouillés aux truffes.
Aux truffes, je savais.
Tu t'en souviens,
alors, oui, pourquoi s'embêter non plus? Voilà. C'est ça ou le hachis parmentier?
Comment c'est passé? Je sais pas si ça s'est passé, le repas médiéval, là.
Ah, ça a été, amis, ça a été extraordinaire. Véritablement extraordinaire. Alors, ce que je trouve, alors, je savais où j'allais parce que j'ai déjà eu le plaisir de découvrir la cuisine médiévale de Gérard Garrigue il y a plus de 15 ans. Donc, Gérard Garrigue, c'est le ménagier à Castelnau de Montmirail. Et Gérard Garrigue est véritablement quelqu'un qui a potassé la question depuis des décennies et qui travaille vraiment avec des livres anciens de l'époque médiévale. Le viandier de Taïwan notamment et le livre Le Ménager qui s'appelle Le Ménager de Paris. Et alors il avait fait un cochon de lait à la broche, des huîtres à la braise, du gibier,
ça y est, j'ai fait. Voilà.
des pigeonneaux rôtis à la braise avec des omelettes au lard. Enfin, ça a été magnifique. Il y avait quand même 7 plats différents.
Et tous aussi légers l'un que l'autre.
C'est pas trop un repas végétarien, ça dit donc.
Eh bien, alors écoute, curieusement, donc il y avait déjà l'apéritif dehors avec de l'hypocras qu'il avait préparé il y a 3 mois.
Ouais, tu m'étonnes.
Ensuite, il avait un jambon de coche absolument magnifique avec 18 mois de sèche persillé à souhait qu'il coupait en copeaux devant les convives. Les huîtres, qui étaient rôties à la braise et qui étaient accompagnées d'une sauce médiévale à base d'échalotes, de vin blanc et d'oseille, que tu versais, tu vois, sur l'huître qui sortait de la braise.
Je vois très bien, oui.
Tu vois très bien le truc, hein. Et puis, voilà. Puis, ensuite, on est passé à table. Donc, il y avait 7 plats différents. On a commencé par des soupes. Alors, la soupe des jeunesses, c'est potiron et safran, et ainsi de suite. Le gibier, c'était du cerf. Le pigeonneau. Et puis, on termine avec le cochon de lait rôti à la broche, qui a cuit lentement pendant près de 8 heures. C'était absolument magique.
Léger, quoi.
Oui, alors curieusement, c'était effectivement le soir, donc on a quitté le restaurant à minuit.
Wow.
Et digestion impeccable, parce que quand c'est de la bonne cuisine, la vraie bonne cuisine, ça ne rend pas malade. Au contraire, ça ouvre l'esprit.
Bon, on va aller manger.
Quant à toi, tu vas nous dire le programme un peu de la Manajac.
Le programme est tout 5e simple.
5e salon de la coutellerie, c'est du 30 septembre au 1er octobre à Najac, en Aveyron, bien sûr.
Voilà. Alors, on fait ça tous les premiers week-ends d'octobre. On a bloqué ça. L'année dernière, on a eu un souci parce qu'ils en ont fait un salon en même temps que nous à la Monnerie, à côté de Thiers. Et puis, il y a eu mes ententes. Et puis, finalement, j'ai eu le maire de la Monnerie et il m'a dit, bon, ben, il faut qu'on se débrouille parce que maintenant, on le sait. Voilà. Donc, on s'est décalé. Enfin, il s'est décalé et nous, on le fait toujours le premier week-end d'octobre. Et là, ça tombe à cheval, donc on est obligé de faire 30 septembre et 1er octobre, puisque c'est samedi. Ça débute le matin par l'installation donc des exposants et vers 10h, le public arrive. À midi, on peut manger sur place puisqu'on installe des barnums, des tables, des chaises et tout, un peu comme les marchés gourmands du mercredi soir à Najac. Et ce sont des producteurs locaux qui proposent leurs produits. À peu près les mêmes que tu as connus, Philippe.
Qui sont toujours excellents d'ailleurs.
Super produits. Comme ça, l'association, c'est Culture à Najac, donc, qui organise ça, ce salon. On s'occupe pas de ce qui est manger. On a un bar histoire de gagner 3 sous pour faire les affiches, mais le but c'est pas du tout de gagner des sous. C'est pour faire connaître des gens.
L'entrée gratuite aussi.
L'entrée est gratuite. Alors ça, c'est, je trouve absolument inadmissible en France qu'il y ait des gens qui fassent des salons avec des entrées payantes. C'est comme si on faisait payer l'entrée pour les galeries marchandes de Leclerc, quoi. Qu'on soit obligé de payer pour avoir le droit d'aller acheter des quelque chose. On fait un salon. Si c'est un musée, c'est un musée.
Le pape fait payer ses entrées aussi.
C'est quoi le pape?
Il est sous-pape. Hein, alors, la liste, les nouveautés.
Il doit être rodé.
Oui, mais le pape, il n'a rien à vendre derrière. Donc, il faut bien qu'il fasse payer.
Il y a des hosties, ça a beaucoup augmenté, l'hostie.
Non, ils vendent l'espoir.
Oui. Alors, non, mais pour certaines personnes, oui, bien sûr. Allez, vas-y, dis les gens qui arrivent.
Oh, les gens,
soyons pas mécréants.
Je vais pas les énumérer tous parce qu'il y en a un paquet.
Non, mais les nouveautés, par exemple.
Alors, les nouveautés, je ne les connais pas. En fait, je les connais pas personnellement. On a reçu leur dossier. On voit ce qu'ils font sur la toile. Mais en fait, le mieux, c'est quand même d'aller les voir sur place. Parce que des gens qui font des couteaux, il y en a beaucoup. Et on s'aperçoit chaque année qu'il y a des gens qui font des couteaux très particuliers. Parce que le problème, à mon sens, de la coutellerie en France, c'est qu'il y a une explosion de couteaux phénoménale. Alors, ce sont des techniciens, les mecs des orfèvres. Mais en fait, je pense qu'on est plus branché sur l'amanajac, sur des couteaux entre guillemets traditionnels ou populaires ou des choses qui sont à la portée de tout le monde, quoi. Parce que les couteaux qui valent 5000 balles, pas trop, quoi.
Ceci dit, un couteau comme ce couteau japonais, ça doit pas être donné, quand même.
Ah, ça, c'est sûr.
Les couteaux de Yannick Puig, c'est à partir de 350 à 400
oui.
euros.
Oui, c'est la retraite d'une vieille. Hein.
Oui, mais un couteau comme ça, ça fait la vie, quoi.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est toujours difficile de donner le prix d'un couteau oui. parce que le problème, c'est que quand on parle de couteau de cuisine japonais de ce forgeron, de ce Yannick Puig, si on va sur Internet, on voit des gens qui vendent des couteaux de cuisine japonais à 50 euros.
Ouais.
Mais ça vaut rien.
Oui.
C'est ça le problème, c'est que les gens sont trompés bien souvent, mais on le sait aujourd'hui. Il n'y a pas que sur les couteaux de cuisine, hein, on trouve bien des sûr. Tas de produits. Une Ferrari, ça coûte 250 000 euros. Une Twingo, ça coûte 40 000 euros ou 25 000 euros. Mais c'est pas la même chose. Ce sont deux voitures, mais c'est pas la même chose. Alors comparons ce qui est comparable.
Là, j'ai une anecdote qui date de la semaine dernière. Je vais moi-même faire parce que j'aurai pas le temps ni les moyens de le faire, un couteau de table, c'est-à-dire le Najac en version de table.
Bon. Ah, c'est une bonne idée. Ça.
Alors c'est une très bonne idée, mais je suis obligé de le faire fabriquer dans une. Alors je veux que ce soit français intégralement, etc., etc. Et j'ai demandé des devis. Alors à Leclerc, par exemple, pour pas nommer, parce qu'on n'a pas le droit de faire de pub, ils vendent des couteaux de table qui ont des formes de plus ou moins de la gueule ou autre chose, qui sont très jolis, mais vraiment très très beaux, très bien faits et tout, qui valent 2 euros pièce.
Ha.
Bon. Le mien, j'ai reçu le devis la semaine dernière pour me faire un couteau, je le touche, moi, à 33 euros hors taxe.
Un.
Pièce. Ça veut dire, il faut que je le vende combien? Donc, c'est invendable. Alors, c'est vrai que quand on trouve un couteau, un laguiole à 7 euros sur le marché, les gens disent, ouais, vous croyez que c'est un vrai? J'ai envie de distribuer les torgnoles, hein.
Non, le problème du laguiole aujourd'hui, oui, on le sait tous, c'est qu'il y a, c'est devenu la boîte de Pandore, il y a tout et n'importe quoi. Pour trouver de vrais laguioles aujourd'hui, c'est extrêmement
difficile.
Mais là,
l'année dernière, on en avait un. Là, il vient pas cette année parce qu'il a un autre salon. Mais Michel Chambon, c'est celui qui a réimplanté les laguioles à laguioles.
Il vient de Bayonne.
Le Chambon de Bayonne, oui, mais il est de laguioles. C'est Chambon de laguioles.
Oui, d'accord.
C'est lui qui, dans les années 84, a refabriqué des laguioles dans le village de laguioles. Et c'est grâce à lui qu'il y a toutes ces grosses boîtes à laguioles et tous ces emplois à laguioles. Par contre, lui, on s'est bien servi de lui et puis on l'a mis un peu de côté.
D'accord.
Et il a toujours sa petite boîte et il fait toujours ses laguioles en dessous de laguioles.
Pour revenir à Gourmandise et à tes livres, Philippe, on les trouve où?
Alors maintenant, mais en maison de la presse,
et combien ça vaut aussi, il faut le dire.
7,50 €.
Ben, c'est pas cher, parce que si non, vous voyez le beau livre, cher. C'est vraiment, c'est...
Alors il faut savoir que la majeure partie de nos lecteurs sont des abonnés, puisqu'il faut savoir que le prix de vente du magazine qui est de 7,50 €, ça représente donc 30 € par an pour 4 numéros, mais c'est livré, c'est le prix livré.
D'accord.
C'est-à-dire que vous vous abonnez au magazine Gourmandise sur le site.
Quels sont ces sites alors?
C'est sur tout simplement vous tapez sur Google Gourmandise et Gourmet et vous trouvez un clic pour vous abonner. Vous réglez avec votre carte bleue et vous recevez le magazine tous les trimestres directement dans votre boîte aux lettres.
D'accord. Et excuse-moi, juste j'ai une idée parce que c'est toi qui choisis les reportages que tu vas faire ou des gens qui font des trucs des fois. fois peuvent te proposer.
Bien sûr, il y en a de plus en plus, mais il faut savoir que la philosophie du magazine, c'est donc de mettre en avant des produits de qualité systématiquement. Donc tout ce qu'il y a dans le magazine, rien ne nous a échappé, tout a été goûté. Il faut le savoir, que ça soit les vins, le fromage, les plats, nous les avons goûtés.
C'est un beau métier.
Quand quelque chose ne nous a pas emballé, on le dit au chef ou au vigneron ou ainsi de suite, mais on n'écrit rien pour dénigrer.
C'est bien.
On écrit positivement, mais sans complaisance, mais c'est véritablement du produit vérifié, et c'est des produits qui ont en général, qui nous ont produit une véritable émotion gustative. Alors ça peut être des produits très simples, jusqu'à des recettes beaucoup plus complexes, mais dans notre magazine, vous trouvez aussi bien un restaurant à 16 € entrée plat dessert, qu'un restaurant étoilé Michelin. Pour nous, c'est la qualité de la cuisine, la qualité des produits employés, puisque lorsque nous parlons d'un chef, que ça soit un bistrot ou un restaurant étoilé, nous indiquons dans le magazine une partie de ses fournisseurs. Le paysan du coin qui lui a fourni le fromage, celui qui a fourni la viande, d'où vient le poisson, et ainsi de suite. Le boulanger, et etc. Et c'est ça notre démarche, et c'est d'ailleurs ce qui avait plu et qui continue à plaire sur notre magazine internet Escapade et Découverte, et maintenant Escapade et Découverte TV, qui est notre chaîne YouTube sur lequel on met aussi des recettes de cuisine, on présente des chefs et autres. Donc notre démarche, c'est ça. La démarche de Gourmandise, c'est de mettre en avant des produits que nous avons testés. Et d'ailleurs, Michel, je peux le dire sans rougir, nous n'avons jamais eu un retour, je dis bien jamais eu un retour d'un lecteur ou d'un auditeur de notre chaîne télé qui nous ait dit « Mais c'est quoi ce produit que vous nous avez indiqué? C'est pas bon. » Non, c'est pas vrai. Nous, on l'a vérifié et encore une fois, si on parle d'un boulanger, on est allé chez ce boulanger. Là, on est en train de préparer pour le numéro d'hiver. On va avoir 4 grands thèmes qui seront le caviar, les huîtres, le saumon et le chocolat. Et nous n'allons que chez des producteurs français. Il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'aujourd'hui la France est en train de devenir le premier producteur mondial de caviar.
D'accord.
En qualité de caviar. Et le caviar existait en France déjà au 19e siècle en Gironde. Oui. Et vous avez à nouveau des producteurs de caviar en France. Vous avez 4 ou 5 producteurs de caviar qui font vraiment du produit très très haut de gamme. Puisque malheureusement l'esturgeon est en train de disparaître de la mer Caspienne. Donc c'est très intéressant pour nous et on va vraiment à la rencontre et de ces producteurs de caviar et des chefs français qui travaillent ce caviar de façon originale. Le caviar se marie avec énormément de produits. Alors il faut savoir, pour la petite anecdote, parce que c'est comme pour les truffes, souvent les gens parlent des truffes et ils vous parlent tout de suite « Ah oui, mais la truffe, ça vaut 1 000 € le kilo ». Mais je vous l'ai déjà dit, ça, Michel, vous en souvenez peut-être, pour faire des très bons œufs brouillés aux truffes, moi je mets 20 grammes de truffes par personne, et c'est déjà très très riche. Et pour faire, par exemple, une huître au caviar, il suffit de mettre dans l'huître 5 grammes de caviar, et ça vous donne déjà une explosion en bouche.
Mmh. Pour faire le lien avec les chocolats, donc dont tu vas parler, je présente donc Villefranche-Maroc, qui reprend le samedi 7 octobre 2017 à Salle-Madeleine. Et il y a, bon, Devil Blue, RBBB et Yellowstone, mais le lien, il est où? Et il y a Manu Lanvin. Le chocolat Lanvin, c'est le fils de l'acteur, hein, Gérard Lanvin.
Le lien, que les mecs affichés pour Villefranche Maroc nous ont recouvert toutes les affiches.
J'ai vu que tu étais en colère, mais c'est certes un mec, parce qu'il y a des milliards de mecs qui collent Villefranche Maroc.
Qui que ce soit qui l'ait fait, ils l'ont fait.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une bande de cons. Alors j'ai eu des excuses de Cédric Garès, qui est un mec adorable, et qui m'a dit, moi, tu sais, on l'avait dit à tous les gens, faites attention quand vous recouvrez les affiches, ne recouvrez que celles dont la date est passée, et respectez les autres. Là, visiblement, ce sont des gens ou qui nous en veulent, ou des petits cons. Ça se fait pas.
Voilà,
ça.
Mais c'est...
Nous,
c'est
on a fait vachement gaffe de jamais recouvrir des affiches des autres.
C'est un afficheur qui a fait
oui,
ça.
Oui, mais bon, il y en a un qui l'a fait, mais il l'a fait à Saint-Antonin, à Caylus, à Villefranche, tu comprends?
Mais c'est pas gentil.
Alors je ferme la parenthèse et puis je fais un gros bisou à Cédric parce que c'est un mec adorable.
Et aux ateliers à Charlotte,
aux ateliers à La Fontaine aussi.
Une jeune fille qui s'appelle Charlotte ne peut être que
bonne amie. Pas passé à Charlotte.
Charlotte aux fraises, mais uniquement à l'automne.
Alors, charlotte au fromage, mais non. Ah non, en ce moment, ce serait plutôt les charlottes à la framboise, parce qu'il y a encore des framboises en ce moment.
Bon, allez, on va faire un lien musical, justement, avec un choix de Philippe, Léo Ferré, tient en colère, mais avec le temps, on va tout ça.
Non, mais là, c'est bon, ça va.
Allez, ça on va. Écoute avec voilà. Le temps de Léo Ferré.
Avec le temps. Avec le temps va, tout semble, on oublie le visage, que l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé, qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre en qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Magnifique chanson de Lou Ferré, avec le temps. Donc tu vas pardonner, ils vont plus le faire, va. Je vais leur dire,
non,
moi,
mais bon,
parce que j'ai fait partie des ateliers.
Parce que j'avais un petit coup de
gueule. Non, mais t'as raison.
Allez, mais ça c'est réglé.
Il y a de quoi s'étouffer avec tes, mais c'est comme quand on mange une estouffite.
C'est comme quand on mange
une estouffite. Macarel, c'est quoi une estouffite?
Alors, l'estouffite, c'est une création d'un ami, Najakois.
T'as encore des amis?
Non. En fait, d'un ancien ami, parce que maintenant, je l'ai tué, donc égorgé, qui tient la cantine pirate en bas, oui. À côté du camping du Paisero. C'est le restaurant, en gros, du camping. Et il a eu l'idée de créer un hamburger, le meilleur hamburger du monde de Najac, à base de viande de veau. Et enfin, préparé qu'avec des produits locaux, etc., etc. Et son hamburger s'appelle l'Estoufite. Et il va venir à en proposer à l'âme à Najac aussi. Et je proposais donc à Philippe de le goûter une fois, parce que ça fait partie des grades de cuisine de petite table, ça.
Oui, mais ça peut être un sujet pour gourmandise.
Oui, mais c'est comme disait, ça part des petits repas ou grands repas.
Ah, ouais.
C'est super. Quel est, Philippe, le reportage que tu aimerais faire et que tu n'as pas encore fait?
Oh là 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 là, vaste question. Il y a un sujet que j'ai en tête depuis plusieurs années, qui n'est pas facile à monter. Je voudrais faire une série de reportages sur les plus beaux chais du monde.
D'accord.
Alors, il y a à propos
de... expliquer aux gens ce que c'est un chais, tout le monde.
Alors, un chais, c'est là où on stocke le vin. Alors, il faut savoir que tu me tends la perche, mais nous allons faire, on va le faire fin octobre, un reportage véritablement exceptionnel pour le prochain numéro de Gourmandise, donc le numéro qui va sortir au mois de décembre. Nous allons faire un reportage sur la plus grande collection de vins au monde. Je dis bien la plus grande collection de vins au monde, qui appartient à un Français, à un privé, qui possède plus de 40 000 bouteilles de vin.
Mais il ne les boira jamais, ce type.
Mais lorsque je parle de vin, je parle de Pétrus, je parle de Château Yquem, je parle de vin comme cela, je parle de vins qui ont plus d'un siècle, de bouteilles de vin qui ont plus d'un siècle. Or, il se trouve que ce monsieur, qui est français, qui habite en France, je suis né à 15 kilomètres de chez lui. Et nous avons des amis en commun, c'est ce qui explique que ce monsieur a accepté de nous recevoir pour qu'on puisse faire un reportage sur sa cave, alors qui est enterrée, quatre portes blindées, et ainsi de suite.
C'est incroyable.
Et pour la petite histoire, il y a quelques mois, ce monsieur qui est invité dans le monde entier, parce que c'est un grand connaisseur de vin, lors d'un grand déjeuner parisien, était bien évidemment présent, et il était assis à côté d'un milliardaire chinois, qui à la fin du repas a sorti son chéquier, il lui a signé un chèque de 50 millions d'euros pour lui acheter sa collection de vins. Et ce monsieur lui a rendu son chèque en lui disant « Monsieur, la Joconde n'est pas à vendre, eh bien ma collection de vins fait partie du patrimoine français, elle n'est pas à vendre non plus.
Ouais. »
Milani, tu sais,
oui, parce qu'ils sont en train de rajouter. J'ai vu ça, moi j'étais allé faire un spectacle du côté de Bordeaux, par là-bas. Et j'ai le mari d'une copine qui faisait notre première partie s'occupe justement des chais, des Chinois ou des Japonais. Et le Chinois, son patron, c'est celui qui s'est tué en hélicoptère, tu sais, qui était tombé, qu'on a cherché pendant X temps. Il a fait visiter les chais et le château qu'avait acheté le gars en question. Et le château dedans, c'est un super château avec des meubles, tout. Mais tout pourri, à l'abandon total. Parce que ils s'occupent que du pinard. Les châteaux, ils en ont rien. Ils achètent le tout comme ça, en vac, et le château met tout moisi.
Mais ce sont des investisseurs, ce sont pas des amoureux, c'est jamais.
Oui, tout à fait.
Mais il y en a qui aiment quand même le vin, vraiment.
Oui. Les d'ailleurs,
des connaisseurs, quand même,
j'ai beaucoup d'amis vignerons qui aujourd'hui vendent certains plus de la moitié de leur vin part en Chine. Les Chinois sont très très amateurs de vin et ils se sont mis aussi à la viticulture.
En parlant de vin, on disait Jésus change à l'eau mais en vin.
Oui, mais en vin.
Parce que c'est vrai. Toujours en rapport avec Gérard Lanvin.
Et bien évidemment.
Dont on passera le morceau en fin d'émission. Alors, que veux-tu dire de beau sur tes bouquins là?
Oh, mais il y aurait, si tu veux, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais avant tout. Ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir le bonheur de rencontrer ces producteurs qui sont amoureux de ce qu'ils font.
Et en même temps de manger, de faire de bons
alors,
repas.
Alors de goûter, bien sûr, mais comme je l'ai déjà
c'est
dit...
professionnel.
Non, tu mais, veux pas de zèle
bien sûr,
venir avec toi.
Mais comme je l'ai déjà dit dans cette émission, je crois, et si je ne l'ai pas dit, ben je le fais aujourd'hui, pour moi la gastronomie, c'est de manger une très bonne omelette aux pommes de terre avec une bonne salade. c'est de la gastronomie. La gastronomie, ça ne veut pas dire aller manger dans un grand restaurant étoilé Michelin. Ce n'est pas vrai. La gastronomie, c'est d'aller dans un bon bistrot où on est capable de vous servir un pied de cochon désossé roulé dans une feuille de chou. Tu vois, c'est pour moi la bonne cuisine, c'est ça. Le bon vin, c'est de trouver le petit vigneron. Je viens de découvrir un gars qui est dans le... Ça s'appelle la ferme du Vert, à proximité de la forêt de la Grésigne, en dessous de Castello de Montmirail.
Puis celle-ci.
Et il fait deux vins rouges.
La plus grande forêt du monde, d'ailleurs, la forêt de la Grésigne. C'est à côté de Puy celle-ci.
Oui, c'est ça, 6 000 hectares d'un seul tenant. Il fait deux vins rouges. Il fait beaucoup de vins blancs, mais notamment deux vins rouges en monocépage, avec du Prunelard pour l'un et du Duras de l'autre. C'est-à-dire, ce sont des vins que l'on ne trouvait plus, que l'on ne trouve plus aujourd'hui. Oser faire un vin rouge monocépage avec uniquement du Prunelard, il faut oser. Mais son vin, il est étonnant. C'est Lino Ventura aurait dit, c'est un vin d'homme. C'est-à-dire, c'est un vin. C'est que tu bois un verre de vin. Ouais. C'est plutôt une boisson d'homme. Mais non, mais je plaisante. Mais
pour
c'est
connaître.
Voilà. Alors, je dois annoncer aussi une chose qui me plaît beaucoup, c'est que ça me vient en tête parce qu'on parle de vin et on parle d'une boisson d'homme. À partir du prochain numéro, nous allons avoir une rubrique trimestrielle sur qui va s'appeler Chez Zelle. Chez, mais le chez. C-H-A-I-L et L, C-H-A-I-S et L au pluriel. C'est uniquement des portraits de femmes vigneronnes. Voilà. Et on va démarrer dans le numéro d'hiver. Ça sera une productrice de vin d'Alsace. Et notamment de Riesling. Le Riesling qui est, je le rappelle, un excellent vin pour accompagner, par exemple, un plateau de fruits de mer.
Ah mais tout à fait, moi j'adore.
Ça figure pas comme ça, donc tu peux te taire.
Oui, voilà.
On est bien d'accord. Ah, surtout qu'on arrive à la bonne saison. Là.
À ce propos, le 8 octobre à midi, on se retrouve tous à Bouzigues comme chaque année. D'habitude c'est à 7, mais là c'est à Bouzigues.
C'est à Bouzigues, oui.
Autour de Brassens. Oui. Est-ce que c'est toi qui fais la sono?
Oui, c'est moi qui fais la sono.
Donc
oui.
On se retrouve, nous on arrivera de Paris. On se retrouve à midi, le soir on joue chez la fille de Bobby Lapointe. Donc.
Oui, voilà.
Voilà. La boucle est bouclée.
Tu fais la sono, mais est-ce que tu fais la cuisine aussi à cette occasion?
Non, il vaut mieux pas, par contre.
Quoique, je pense qu'il y en a qui seraient contents, parce que chaque fois qu'on a fait ce spectacle là-bas, le traiteur a jamais été au top top.
Oui, ça c'est sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu quelques trucs. Eh ben, pour illustrer ça, parce qu'on picole d'habitude.
Très peu. Très
mais là,
peu.
On va écouter Jacques Brel qui nous chante Ne te cuite pas.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ah oui, c'était ne me quitte pas, non pas ne me quitte pas, ne te quitte pas. Alors, c'est ça que je voulais te demander, dans ton livre, ce monsieur qui fait des couteaux japonais, mais pourquoi fait-il des couteaux japonais?
Bon, c'est français. C'est une passion.
Il est allé au Japon.
Il est allé au Japon, mais c'est une passion. Il a eu d'abord
tout jeune et des japonais.
Des japonais. Oui, tu sais d'ailleurs pourquoi les japonais ne montent jamais à cheval. Non. Parce qu'ils sont des japonais.
Ils sont des japonais.
Il y en aura le dimanche matin,
des
poneys qui vont faire la Manajak en petit cas. Mais tu te rappelles, l'année dernière, Philippe a fait une super vidéo.
Oui.
D'ailleurs, qui est sur YouTube. Je suppose que tu donneras la référence, mais on peut regarder sur YouTube la vidéo de Philippe Ploquin à cheval, n'est-ce pas?
Non, j'arrive en calèche tiré par,
des chevaux.
Par des poneys.
Forcément, blanc
poney blanc, oui, exactement. Non, Yannick Puig, c'est un véritable passionné. Il a eu envie de faire des couteaux japonais parce que comme c'est un maître forgeron, pour lui, c'est tout l'art de forger des lames et de forger de belles lames. Et Dieu sait si c'est difficile. Il faut voir la vidéo.
Et les japonais sont très pointus des maîtres. De ce côté-là.
Comment se fait-ce que toi, tu n'ailles pas voir ce monsieur, Régis? Pour qu'il te forge tes couteaux.
Mais on est en relation. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai fait faire du damas à l'un des couteliers. Du damas, ce sont des aciers repliés, forgés, repliés, refondus, repliés, faisant un gros boulot. Et on est en contact, il n'y a aucun problème. Mais je ne peux pas faire mes couteaux entiers. Les couteaux, je les fais moi. Excepté que quand j'ai besoin d'acier, l'acier, je le commande ailleurs.
Mais pour ton projet, là, de couteau de table.
C'est même pas la peine d'y songer. Ouais. Se faire des couteaux de table à 400 euros pièce, c'est impossible.
D'accord.
Par contre, les siens, c'est vrai que, mais il n'y a pas que lui qui fait des couteaux comme ça. C'est pour ça que c'est bien la Manajak, parce que ils sont copains tous, en plus. Ils se tirent pas du tout dans les pattes, et il y en a qui font les mêmes métiers, les mêmes objets, quoi. Avec les mêmes passions, d'ailleurs.
Combien y a-t-il d'exposants cette année?
Une vingtaine.
C'est bien,
une vingtaine d'exposants. On a les mêmes, Milan Gravier, par exemple, qui fait des couteaux comme ça, mais qui fait aussi pas mal d'armes, d'épées, etc., etc. Un certain Lavial, que tout le monde connaît, qui est à côté de Montauban, là-bas, d'Albias, qui est un forgeron aussi, et qui fait des copies d'armes et de...
Qui a forgé. Je me souviens de lui, oui.
Ouais, un chouette mec. Yannick Puig, bien entendu, oui. Puis il y en a un d'ici aussi, qui est de... Il y a trois ou quatre exposants cette année qui viennent du coin, du proche coin.
Est-ce qu'il y a le Sauveterre?
Le Sauveterre, non. Et alors, j'ai pas compris.
Parce
pourquoi,
que ça, c'est un couteau vraiment régional qui, je comprends pas qu'il vienne pas, il y est jamais, en fait.
Il y est jamais. Moi, j'ai été le voir, j'ai lui demandé, ça a pas eu l'air de les intéresser beaucoup.
C'est un couteau qui est créé à Sauveterre de Rouergue depuis longtemps, longtemps. Je comprends
non.
pas pourquoi.
Non. Ça a été un couteau qui a été inventé. Créé, qui a été théoriquement inventé pour les besoins d'un film.
Ah bon?
Mais en fait, ils disent que c'est une invention, c'est la copie de l'Aurillac, d'un couteau qui s'appelle l'Aurillac, qui est connu depuis fin 19e.
Il y a des faussaires même là-dedans.
Ce ne sont pas des faussaires, mais disons que des gens qui créent, il y en a beaucoup qui créent, et ça a déjà été fait, quoi.
Mais là, on parle de couteau pliant.
Oui, de couteau pliant, oui. Qui est un chouette couteau, d'ailleurs. Mais par contre, j'ai été leur demander, j'ai eu l'impression que non... Bon, tant pis, s'ils veulent pas, c'est pas un problème. Cette année, par exemple, à la Manajac, nous n'aurons pas de la gueule. Il n'y a aucun fabricant de la gueule qui sera là. D'habitude, on a toujours un fabricant.
Pourquoi ?
Mais un vrai.
Pourquoi ?
Parce que ça s'est pré... c'est comme ça. Cette année, il n'y en a pas qui sont revenus. Il y avait Dalbrac la troisième année, mais Dalbrac a coulé.
Ah bon ?
La forge de la gueule avec laquelle je travaille... ne font pas les petits salons parce qu'ils estiment que c'est faire de la concurrence à leurs revendeurs, ce qui est pas bête en fait. Et puis voilà.
Ça reste la fin des festivals de la Manajac, non ?
Non.
Avec
non,
le
non.
temps.
Ah mais si ça devient trop gros, par contre, on va arrêter, oui, parce que là, on commence à avoir pas mal de demandes. Mais là, on est sur la place du village, c'est bien, ça fait de l'animation un peu partout. Mais si ça doit devenir énorme, on lâche, parce que c'est trop compliqué à gérer. Déjà, avec leurs histoires de vigipirates, là, ça devient hallucinant de stupidité.
Mais c'est pas fini, ça.
Et c'est pas fini. Puis c'est encore en train de nous pondre autre chose d'encore plus Stasi, n'est-ce pas?
Ouais.
Mais là, on est 20. Allez, admettons qu'on soit à 30 l'année prochaine. Après, il faut pas aller plus loin. Parce qu'il y a des gens qui vont se greffer dessus, qu'on pourra pas refuser. Pour l'instant, on ne prend que des gens qui font de la coutellerie ou un métier en rapport avec la coutellerie et la forge. Donc, on veut l'étaler un peu à la maréchalerie, mais c'est très, très difficile.
Les tu peux inviter les joueurs de tennis, alors.
Pourquoi
les forger?
Dis tout.
Faut le faire forger.
Ah, oui, c'est vrai.
Alors, Philippe, tes bouquins, alors les autres, les gros bouquins, tout ça là, ça continue à la vente?
Là, écoute, oui, bien sûr, ils sont toujours à la vente, mais le magazine nous prend maintenant énormément de temps et on se consacre à cette édition parce que sortir un magazine de cette importance tous les trimestres, c'est beaucoup de travail.
C'est ça, combien de
temps
il faut pour faire une revue comme ça?
Trois mois. Il faut tomber la revue en trois mois.
Et quelle est la première idée? Par exemple, tu dis, on veut faire numéro 5. Tac. Tu te réunis avec ta femme.
Ah, mais...
Pour dire,
mon cher ami, si tu regardes la page 80 du magazine, tu as déjà les numéros...
À venir.
Les prochains numéros à venir jusqu'à l'automne 2018 avec les thèmes qui vont être abordés. Donc on sait déjà, par exemple, en l'automne 2018, on va parler du piment d'Espelette, de la pomme, de la noix. En l'été 2018, on sera sur le homard, la pêche, le brugnon, les nectarines.
Voilà, avec le homard, j'arrive. Hein.
Avec le homard, j'arrive, oui, très bien. D'ailleurs, le homard, il faut savoir que le meilleur homard que l'on trouve en France, c'est dans un petit port qui s'appelle Vinci. Voilà, le homard de Vinci, tout le monde connaît.
Moi, j'ai beaucoup mangé, quand je suis allé jouer au Québec, j'ai mangé beaucoup de homards, et là-bas, c'est pas cher du tout.
Oui. Parce qu'ils ont c'est pas la même variété.
Non, c'est pas la même variété, et c'est un,
c'est, bon
c'est pas pour faire cocorico, mais le homard, que l'on appelle le homard bleu, que l'on pêche soit sur les côtes de Bretagne, ou soit sur Jersey, c'est véritablement un homard prisé dans le monde entier. Oui, il est meilleur que le homard canadien. Sans faire coucou.
D'ailleurs, il suffit de regarder les différences de tarifs sur les marchands. Et alors, on n'est pas à la télé puisqu'on est à la radio, mais le dernier numéro, numéro 4, donc, de Gourmandise, pour faire baver un peu tout le monde, il y a une terrine de foie gras au cèpe.
Au cèpe.
Une espèce de gros bloc de foie gras qui est coupé, et puis au milieu, il y a deux gros morceaux de cèpe qui se truc. Et rien que de voir ça, ça te fout la mouillette, tu sais, sous la langue un peu. Hein.
Alors ça, c'est réalisé par un chef absolument génial d'un petit restaurant à Saint-Cirque, pas Saint-Cirque la Popie, Saint-Cirque dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Caussade. Et il faut savoir que chez lui, vous mangez tous les midis pour 16 euros, entrée, plat, dessert.
Yannick Éché.
Yannick Éché, ça s'appelle l'auberge de l'Hirondelle à Saint-Cirque.
D'accord. Eh ben, bon, on nous fait signe qu'il reste une minute. Alors, deux minutes, mais à mon avis, on n'écoutera pas Manu Lanvin, mais on sait qui vient, j'en reparlerai ultérieurement. Par contre, on écoutera Au Toulouse de Claude Nougaro, pour se quitter. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, juste il reste une minute ou deux.
Eh bien, merci Michel Vivoux de nous avoir invités. Michel, merci à Philippe Ploquet, que ça fait plaisir de revoir.
C'est toujours du bonheur.
Je vais faire un gros bisou à ta compagne.
Je n'y manquerai pas. Et moi, je voudrais terminer avec une phrase de Colette.
Oui.
Qui disait...
Je connais très bien sa sœur, c'est monsieur et madame Lavallée, ont deux filles, Berthe et Colette. Colette et Berthe, ma vallée.
Donc une phrase de Colette qui disait, si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine.
Ah, très bien.
Ah oui.
Elle est morte empoisonnée. Ah, mais bon.
Bon, eh bien merci d'être venu. Bientôt je reçois mon œil et Jean-Marie Perrier.
Ah oui.
Mais là, on passe du vin au Perrier, c'est pas tout à fait pareil. Dans 15 jours, qu'ils vont nous, parce qu'ils ont des projets communs, voilà. Eh ben, merci à Lucas pour la mise en onde et beau sourire. Très sympathique, c'est le nouveau technicien. Voilà.
Oui.
Et ben, nous, à bientôt. Au revoir, Philippe.
Merci de ton accueil et à très bientôt, Michel.
Au revoir, Michel.
On écoute donc Claude Nougaro au Toulouse.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Ou voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles, au Païs, au Toulouse, oh, Toulouse.